réalisé et animé par Roland Bensoussan.
Chers amis, bonsoir. Roland Bensoussan au micro de Judaïsme Pluriel. Pour votre émission du jeudi soir de 19 à 20h, c'est Judaïsme Pluriel. Ce soir, la méthode Feldenkrais, un regard inhabituel sur la santé, c'est la suite de l'émission du 6 juin 2019. Et comme le disait Feldenkrais lui-même en hébreu, pardon pour l'accent, Shiur Beshipur Ha Aye Holet, ce qui veut dire, m'a-t-on dit, leçon pour l'amélioration du potentiel humain. Avec notre invitée, Nathalie Toiti.
Bonsoir.
Chers amis, bonsoir. Et oui, c'est la première émission de la saison 2019-2020. Avec une petite émotion, comme toutes les années quand on commence. J'espère que vous avez passé un bon été. Je voudrais noter ce soir deux événements qui me paraissent importants. D'abord, le retour prochain pour Israël du ministre d'Israël chargé de la région Provence-Côte d'Azur, le ministre Anita Mazor, mais aussi l'ami pour beaucoup de Marseillais. Elle a fait un travail remarquable et, hélas, chose que nous ne comprenons pas, elle ne sera pas remplacée. Au revoir Anita, mais c'est sûr, nous nous reverrons. Le deuxième événement dont je voudrais parler ce soir, c'est le décès de notre ami Albert Vesside, dont les prières du mois ont lieu en ce moment même à la SIPA, communauté israélite pour Allo. Il était un phare pour notre communauté, ancien déporté, qui n'arrêtait pas de témoigner et encore témoigner de ce passé noir. Mais puisque nous débutons ce soir la saison, laissez-moi vous souhaiter un grand Shana Tova, et vous lire ce que je vous souhaite aussi, des vœux émis par Jacques Brel en 1968. Voici ces vœux. Je vous souhaite des rêves à n'en plus finir et l'envie furieuse d'en réaliser quelques-uns. Je vous souhaite d'aimer ce qu'il faut aimer et d'oublier ce qu'il faut oublier. Je vous souhaite des passions, je vous souhaite des silences. Je vous souhaite des chants d'oiseaux pour réveil et des rires d'enfants. Je vous souhaite de respecter les différences des autres parce que le mérite et la valeur de chacun sont souvent à découvrir. Je vous souhaite de résister à l'enlisement, à l'indifférence, aux vertus négatives de notre époque. Je vous souhaite surtout d'être vous-même, fier de l'être et heureux, car le bonheur est notre destin véritable. C'est un poème de Jacques Brel et je vous transmets ces mêmes vœux. Voilà. Bonsoir Nathalie.
Bonsoir Roland.
Eh bien voilà, nous allons attaquer notre émission sur la méthode Feldenkrais, mais peut-être qu'avant, comme ça date du mois de juin, on va rappeler qui tu es. Eh bien, Nathalie est diplômée d'un master de danse et d'un diplôme universitaire technique du corps et monde du soin. Elle aime chercher les chemins qui rendent les mouvements plus aisés sans effacer leur complexité. Danseuse contemporaine et artiste chorégraphe, la recherche et la transmission ont toujours fait partie de sa démarche. Qu'est-ce qui fait danse ? Qu'est-ce qui fait mouvement ? S'interroge-t-elle. Elle enseigne pendant 25 ans la danse dans des projets pluridisciplinaires à l'Université de Lyon, aux enfants, aux adultes. Et c'est en 89, lors d'une rencontre déterminante, qu'elle suit les premiers cours de la méthode Feldenkrais. En 2000, elle décide de se former à cette méthode auprès de Myriam Pfeffer, elle-même directement formée par Moshe Feldenkrais. Depuis 2004, Nathalie est praticienne, enseignante de la méthode au sein de l'association Perpetuum Mobile, dont nous parlerons tout à l'heure, bien sûr. Elle enseigne en cours de groupe, ça s'appelle PCM, ou prise de conscience par le mouvement, et en séance individuelle, intégration fonctionnelle. Elle accompagne des personnes en difficulté de mouvement, comme des enfants handicapés, mais aussi monsieur et madame tout le monde en quête d'un mieux-être. Mais tout cela, nous allons en parler, bien entendu. Bonsoir Nathalie et merci d'avoir encore accepté de venir nous parler.
C'est moi qui suis ravie d'être là. Merci de votre invitation.
Alors, peut-être que nous devrions parler d'abord de Moshe Feldenkrais.
Voilà, comme ça on comprend pourquoi ça s'appelle Method Feldenkrais. Donc c'est de son nom de famille. Et on va peut-être moins en dire que l'émission de la dernière
Bien
fois,
sûr.
Où on a beaucoup parlé de cet homme un peu exceptionnel. Il est né en 1904 dans un territoire qui aujourd'hui serait l'Ukraine. Et il va mourir en 1900, tu vas m'aider, j'ai oublié mes notes, 80 ou 82.
89, je crois.
82 ou 80, je ne m'en rappelle plus.
Moi non plus. Donc, on est en direct.
On est en direct, voilà, tout à fait. Et il est mort quasi en transmettant, juste, il était en pleine cours, il était dans le processus de formation de praticien américain. Et sa vie s'est arrêtée presque en enseignant. Voilà, donc Moshe Feldenkrais quitte la Russie à pied pour chercher une meilleure vie, s'émanciper, certainement aussi de sa famille, mais aussi pour se sauver des pogroms.
Il a 14 ans à cette époque.
Il a 14 ans, il fait ce voyage à pied, certainement avec d'autres jeunes, et il arrive en Palestine. On va résumer. Hein.
Oui, vas-y, résume.
Et il est quand même repéré par des gens en Israël, qui est encore la Palestine, comme quelqu'un de très doué. Il va être aidé pour passer un baccalauréat en France. Il va étudier au lycée Louis le Grand et passer un doctorat à la Sorbonne. Donc ça va être un ingénieur en physique nucléaire. Il va participer au laboratoire pour l'accélérateur de particules. Il va être l'assistant de Joliot-Curie. Donc c'est un monsieur qui fera partie du laboratoire qui aura le prix Nobel en recherche nucléaire. Voilà, avec la Seconde Guerre mondiale, il va être protégé en Angleterre et il travaillera pour le ministère de Défense britannique. En sciences et écrira le sonar qui, pour l'anecdote, si certains ont regardé la télé et qu'il y a eu ce film allemand qui raconte l'aventure d'un sous-marin très de haute technique allemand, et à un moment donné dans le film, ils sont repérés par les Anglais et les ultrasons du sonar repèrent le bateau allemand, le sous-marin qui descend toujours plus profondément. Et l'amiral allemand dit, je ne vais pas le dire à la radio, mais il s'exprime un peu énervé pour dire, ça va, on a compris, avec vos ultrasons, c'est leur invention, le sonar. Et moi, j'ai souri en regardant le film, évidemment, parce que j'avais bien sûr très vite compris que c'était Feldenkrais qui a inventé. Il y en avait une démarche concrète pendant la Seconde Guerre mondiale. Parallèlement, c'est ça l'intérêt de cet homme, c'est que, enfin c'est pas ça, mais entre autres pour nous, c'est que c'est quelqu'un qui est complètement passionné par le corps, qui va écrire ses premiers livres sur le judo et introduire le jujitsu en Europe.
C'est l'une des premières ceintures noires en France. Hein.
Voilà. Mmh. Alors aujourd'hui, ceinture noire, beaucoup de gens ont une ceinture noire.
Mais à l'époque.
C'était vraiment comme un événement. Et il va rencontrer Jigoro Kano, un grand maître du Japon. Il va être le premier président de la Fédération française de judo. Il va en fait toujours s'interroger sur la structure de la pensée humaine, puisqu'il va, il va traduire kwe en hébreu. Et il va toujours relier en fait la démarche orientale, la démarche pédagogique aussi, cette manière d'apprendre autrement. Mais on peut déjà considérer que quand on est né en Russie, on est proche de l'Orient. On n'est peut-être pas si occidental que ça. Et avec une structure de pensée aussi, il avait un grand-père hassidique. Donc ça, c'est aussi important dans son patrimoine.
Et il cette va façon relier de se poser des questions sans arrêt.
De se poser des questions sans arrêt, qui est une démarche scientifique aussi.
Oui, oui, bien sûr.
Mais de la mettre aussi en questionnement, qu'est-ce que l'humain ? Et il va vraiment relier des questions de pédagogie, de corps, de schéma corporel et aussi de travail dans l'espace, de son environnement. Et il y a trois points qui vont être vraiment fondamentaux pour lui. C'est le système nerveux qu'aujourd'hui on dirait cerveau et le corps et dans son environnement. Et sa méthode va... Il va la créer non pas de manière rationnelle en se disant je me mets à table, j'écris et je fais une méthode. Pas du tout. C'est vraiment un processus d'expérimentation, de développement, de questionnement. Et c'est des blessures qui vont lui donner un peu l'intuition de ce qui se passe au niveau neurologique. Il se blesse non pas en judo, mais au foot, parce que c'était un joueur de foot par plaisir. Et il se blesse au genou. Et en fait, c'est une deuxième blessure un peu plus tard à la cheville, très bêtement, une grosse entorse, qui fait qu'il va sentir qu'il est obligé de s'allonger, qu'il est obligé de se reposer. Mais pendant qu'il s'occupe de sa cheville, le genou de l'autre côté qui allait moins bien commence à mieux aller. Il commence à trouver de l'appui et du support sur son autre jambe qui était déjà un petit peu abîmée. Et donc, il comprend qu'il y a quelque chose qui se régule, qui s'organise, qui ne dépend pas seulement que de la rééducation, de l'état du muscle ou du ligament. Et sa méthode va naître comme ça. C'est une recherche qui va faire vraiment à la fois scientifiquement et à la fois intuitivement. Il va vraiment lier les deux aspects de ses capacités.
Voilà. Il faut dire que lorsqu'il s'était blessé, les médecins lui avaient dit qu'il ne retrouverait pas ses capacités. Et par contre, lui s'est mis à chercher et puis il les a retrouvées.
Voilà, c'est ça. C'est aussi de ne pas avoir de solution qui l'a obligé à chercher complètement.
Exactement, ouais. Exactement. Bien, voilà pour cet homme extraordinaire. Vous avez... Ah, au fait, il parle plusieurs langues, je ne sais plus, 6 ou 8, le français, l'anglais, le russe, l'hébreu, l'arabe, peut-être, je ne sais pas si j'en ai oublié d'autres.
Moi, je pense qu'il parle le yiddish.
Le yiddish, bien sûr, aussi.
Un peu l'allemand, certainement, voilà. Par les origines. Oui, pour dire à nos auditeurs, s'ils veulent regarder un petit combat entre Joliot-Curie et Feldenkrais, c'est sur, évidemment, sans faire de publicité, YouTube. Et c'est une archive de l'INA. Elle dure vraiment pas longtemps, mais voilà, c'est un peu charmant de voir des scientifiques qui se sont occupés de choses si sérieuses d'être sur le tapis.
Bon, il y a même une autre anecdote aussi très rigolote, c'est que c'est lui qui a fait mettre Ben Gurion, avec qui il était assez lié d'ailleurs, sur la tête.
Tout à fait. En fait, Ben Gurion souffrait de lumbago aigu et c'est Feldenkrais qui l'a vraiment aidé. Il raconte ça dans il y a eu un très joli reportage documentaire qui a été diffusé peut-être il y a un an, je ne sais plus. Et le journaliste interview Ben Gurion et lui dit « Mais parlez-nous de ce Feldenkrais qui vous a aidé pour votre dos. » Et donc Ben Gurion raconte comment Feldenkrais très progressivement l'a mis sur la tête, lui a fait dépasser certaines limites de mouvement. Et en fait, nous, dans le monde Feldenkrais, on dit souvent, Ben Gurion a mis Feldenkrais sur ses pieds parce que depuis entre guillemets, cette guérison, Ben-Gourion poussait Feldenkrais à rendre sa méthode, on va dire, plus officielle et moins, on va dire, privée.
Bien, écoute, on a bien parlé de Moshe Feldenkrais. Je crois que maintenant, les auditeurs se sont aperçus de qui il est. Peut-être faudrait-il rentrer dans la méthode Feldenkrais.
Oui. Alors, c'est une méthode... souvent, quand on dit le mot méthode, on se dit, mais qu'est-ce que ça cache? Qu'est-ce que ça cache? Est-ce que c'est... on se dit, oh, ben, ça doit être une série d'exercices. Et puis, ma méthode, c'est je fais tant de choses debout, tant de choses à quatre pattes, ou on appuie sur les mains et les genoux. Puis après, on appuie sur les pieds et les mains, puis après un petit peu sur la chaise, et puis tout d'un coup, comme ce serait ça une méthode. Et la méthode en Feldenkrais, c'est une manière de faire le mouvement et de faire tout, des mouvements qui font partie de notre patrimoine. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun mouvement, ce n'est pas une technique comme la danse classique. C'est-à-dire personne n'expérimente la danse classique de 0 à 5 ans, alors que tout le monde expérimente un développement moteur en tant que bébé et bébé grandissant. Et souvent, le développement ontogénétique reflète le développement phylogénétique, c'est-à-dire le développement de notre espèce. Et donc, ce qu'on pratique quand on vient à un cours de Feldenkrais, la méthode Feldenkrais s'appuie sur, on va dire, le spectre large du développement phylogénétique et le spectre plus court, qui correspond plus à notre temps humain de développement moteur de l'enfant. Mmh. Et le génie de Feldenkrais, c'est d'avoir découvert comment ces mouvements pratiqués à un âge où on les a déjà traversés, donc adultes ou adolescents, c'est comment ces mouvements vont recréer toute une ouverture, une disponibilité dans le champ de la sensation, de la perception, de la réorganisation du mouvement et de l'usage de soi.
Alors, quand tu parles de réorganisation du mouvement, il faut dire que cette méthode s'appuie aussi sur le fait de la plasticité cérébrale. C'est-à-dire qu'on va pouvoir modifier des mouvements que nous faisons depuis très très longtemps et toujours les mêmes, de façon à ce que les choses changent en mieux. Est-ce que c'est ça?
Oui, c'est ça, mais si vous, en fait, on va pas jouer sur la plasticité neuronale ou de notre cerveau en se disant, je vais faire de la plasticité. Vous voyez, on va pas à un coup de plasticité. Il y a plein de manières de mobiliser les synapses, de créer de l'apprentissage. Mais c'est vrai que c'est une méthode d'apprentissage. D'abord parce que quand vous êtes sur le tapis, il y a quelques lois dynamiques du mouvement, des lois de perception, de sensation, que nous, on tient compte et qu'on met en œuvre pendant la séance. Ensuite, quand on parle de Feldenkrais, on ne va pas créer des mouvements qu'on répète. On ne joue pas comme dans un sport ou comme une technique pour savoir, par exemple... lancer une balle loin, il faut répéter le geste. Jusqu'à ce qu'il y ait un automatisme qui s'est créé et qu'on n'ait plus besoin de penser comment on va le faire. Et après, on affine comment on fait ce mouvement par l'entraînement. Ça, c'est la technique. C'est vrai pour le tennis, c'est vrai pour la natation, c'est vrai pour la danse classique, la danse contemporaine, le golf. C'est vrai pour tous les sports. Et en fait, on repère les gens qui sont doués, parce que justement, pourquoi ils sont doués, c'est qu'ils savent mettre le rapport qu'ils ont à eux-mêmes dans leur corps, à leurs sensations, perceptions dans l'environnement, et une capacité de réaction très, pas de la vigilance, mais quelque chose qui est très réactif, qui devient très sensible. Et ça veut dire qu'on a un champ dans la perception, dans la sensation très ouvert. Ensuite, ce qui est important pour la méthode, c'est que par exemple, vous allez traverser un mouvement fonctionnel, par exemple, savoir tourner ou savoir s'asseoir, ou de mieux utiliser les épaules, et qu'à travers cette intention-là, il y a 1000 chemins pour le faire. Et en faisant varier la manière dont vous faites ce mouvement, vous allez faire varier la capacité que votre cerveau a de sentir comment vous le faites. Et là, à un moment donné, on va dire une coordination nouvelle peut s'instaurer, ou comme une sorte de connexion qui va s'instaurer dans le cerveau. Mais comment le cerveau choisit que c'est bon ou pas bon? Et là, Feldenkrais, il disait, notre espèce, elle cherche, par des structures très archaïques, à se protéger. On est construit pour survivre à travers certaines adversités. Et en fait, quelqu'un, sauf pour diverses raisons, normalement, quelqu'un choisit à la fois son confort, à la fois de faire le mouvement le plus efficace, et à la fois de choisir la situation qui va d'être le plus efficace pour pouvoir être disponible à faire autre chose. On ne va pas se compliquer la vie, pour le dire simple. Mmh. Et à la fois, cette simplification fait qu'on trie. Mais en triant trop, on a moins de choix. Alors, il s'agit de se créer du choix à travers le mouvement et de repérer dans ce choix les habitudes qui vont être un peu meilleures pour ce qu'on est en train de vivre. Et comment le cerveau repère ça, c'est que ça fait du bien. Et quand ça fait du bien, on se dit, ah ben tiens, c'est bien meilleur pour moi de faire comme ça que l'habitude que j'avais précédemment. Et donc du coup, on commence à s'articuler au lieu de rester dans une structure figée.
Ça veut dire que finalement, pour un geste particulier, il ne s'agit pas d'apprendre parfaitement comment faire ce geste, mais chacun va trouver la bonne solution pour lui-même pour faire ce geste. C'est bien ça?
Oui, tout à fait. Et je dirais qu'il ne trouve pas la solution de manière rationnelle. C'est pas...
Par un ressenti.
Voilà, c'est vraiment par la sensorialité qu'on découvre. Et souvent, après un cours, ou plusieurs cours, même plusieurs dizaines de cours, soyons carrément clairs, c'est des fois dans une action quotidienne qui n'a rien à voir avec le cours, rien à voir avec la proposition. Et vous êtes dans la rue, par exemple, en train de traverser, ou vous êtes en train de cuisiner, de couper des légumes, et tout d'un coup, vous vous rendez compte que vous faites autrement. Ça veut dire que le nouveau schéma s'est intégré. Et souvent, ça se fait sans y penser. Donc, en fait, trouver la solution, je dirais, c'est un peu comme l'eureka du scientifique. Ah, mais oui!
C'est voilà. Bien ça.
Et c'est, en fait, ce que la personne vit, monsieur, madame, tout le monde, qui vient à un cours par semaine, tout d'un coup se rend compte de petits eureka, de petites choses qui vont plus facilement. Hier, on a fait une séance assise, par exemple, où on pourrait dire que pourquoi j'ai fait cette séance assise, c'est pour que la relation entre les hanches et le bassin soit plus fonctionnelle, plus facile, on va dire les hanches plus huilées. Mais derrière ça, il y a quelque chose de plus fondamental. C'est que selon comment on bouge les jambes dans l'espace, dans cette position assise, on pouvait rester orienté dans l'espace toujours de la même face, en regardant le même mur ou la même fenêtre, et qu'en tournant les jambes d'une autre façon avec la colonne vertébrale et le bassin, on changeait d'orientation dans l'espace. Et quand quelqu'un se rend compte qu'à partir d'un mouvement complètement le long de sa colonne vertébrale, complètement avec lui-même, sans se déplacer, c'est-à-dire sans choisir de changer de chaise ou de changer de tapis, sans se lever, sans se poser comme un paquet à côté, dans un autre espace, mais à partir de son mouvement sur le même endroit du tapis, on a changé d'orientation. Ça, par exemple, c'est un grand eureka.
Ah oui, je comprends tout à fait.
Et la personne, tout d'un coup, elle se sent comme une... qu'elle a un pouvoir sur son environnement. C'est-à-dire que d'où je suis, je peux regarder l'environnement autrement. Et ça, c'est un énorme changement.
Bien, si tu veux bien, on fait une petite pause musicale.
Oui, tout à fait.
Alors, tu as choisi Chet Baker. Pourquoi Chet Baker? D'abord, qui est Chet Baker?
Chet Baker, c'est un grand trompettiste,
oui.
Un trompettiste blanc en plus, dont Miles Davis était jaloux de son génie.
Oui.
Moi, j'aime beaucoup Chet Baker parce que je trouve que c'est un musicien qui traverse le temps. J'aime sa manière de jouer de la trompette sur un fil ténu. Je trouve que c'est la puissance, mais en douceur.
Assez rond, c'est assez harmonieux.
S'il y a une tension, parce que quand on joue à un certain niveau, il y a forcément une tension de l'être. Mais je ne sais pas, moi ça m'éveille, ça me fait frissonner. Donc j'aime beaucoup ce morceau aussi que j'ai choisi.
Alors on va faire frissonner nos auditeurs. On écoute Chet Baker. Thank you. Que ce soir, avec Nathalie Toiti, nous parlons de la méthode Feldenkrais. Et pour résumer cette première partie, si on pouvait la résumer, bien entendu, il disait, Moshe Feldenkrais disait, le mouvement meilleur révélateur de notre façon d'être et d'agir. Apprendre à découvrir par ses propres moyens, sans autre référence, que ses propres sensations. C'est un petit peu tout ce qu'on a raconté en première partie, n'est-ce pas ?
Oui, tout à fait. Oui.
Alors maintenant, ce que je voudrais, puisqu'on a parlé des objectifs, je voudrais qu'on rentre dans la méthode, dans ses modalités, dans la méthode.
Mmh. Alors, en fait, on pourrait dire qu'il y a à la fois, c'est des principes. C'est-à-dire, c'est ce qui fait que c'est cette méthode-là. Et à la fois, c'est des modalités. C'est-à-dire que ça sert à la manière d'enseigner le cours collectif qu'on appelle prise de conscience par le mouvement. Et on peut dire que c'est par le mouvement. Le mouvement n'est pas une finalité en soi, mais un moyen. Et donc, parce qu'il est révélateur, justement, comme vous venez de dire, de cette manière d'agir. Alors, il y a une chose que vous devez savoir, c'est le praticien ne montre pas les mouvements. Donc, il n'y a pas de modèle. C'est déjà assez nouveau en soi, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une façon de faire qu'il y aurait à imiter, mais il y a écouter ce langage qui est amené par le praticien, qui va avoir un rythme, une richesse de questions, de mots, pour éveiller les sensations et de permettre à la personne que par rapport à elle-même, elle devienne elle-même référence. Et en fait, on pourrait dire que le corps est pensant, le corps pense, le corps raconte des choses, et si on le sait écouter, et la personne est un sujet agissant. Et pendant que la personne vit son mouvement, elle se sent faire et elle est complètement en unité en train de faire. C'est-à-dire qu'elle ne se regarde pas comme un objet extérieur en train de faire, comme si elle s'observait comme un animal de laboratoire. mais elle est à la fois dans son mouvement, en train de faire et de sentir ce qui se passe. Donc elle écoute, on va dire, le feedback, le retour du mouvement. Et ça peut vraiment se faire si le praticien guide d'une certaine manière avec certains principes. Donc je vais expliquer certains
Voilà.
principes. Et donc il y a la notion qui est très importante, c'est de confort. Parce qu'on ne peut pas apprendre si on est dans l'effort. Si on est dans l'effort, il y a une dépense énergétique, tout simplement, que plein de médecins pourraient expliquer. Hein, on va donner des aliments à cet effort. Pendant qu'on fait l'effort, toute la dépense est vers l'effort et on ne peut plus être attentif à ce qui se passe, puisqu'on est juste à donner de la force.
Je comprends.
Donc le confort pour démarrer un mouvement, pour savoir de quel côté c'est plus confortable de le faire, c'est-à-dire on va jamais travailler sur une partie qui est douloureuse. Si vous avez mal à une autre épaule, vous faites de l'autre côté. La notion de confort va être primordiale. Et bien entendu, il y a des personnes qui s'allongent plus facilement sur un sol, il y a des personnes qui sont moins bien assises. On va créer un environnement, créer des conditions pour inviter ce confort. Ça, c'est tout l'art du praticien. Ensuite, il y a autour de ce confort, il y a justement apprendre à cesser les efforts. Parce qu'on est dans une société où je ne parle pas de l'effort, alors soyons clairs, hein, il faut faire des efforts pour se lever le matin et aller travailler. Il faut faire des fois des efforts parce qu'on a des contraintes. On ne parle pas de l'effort mental, il faut faire des efforts pour apprendre une leçon par cœur. Voilà. Pour réussir des examens. Mais on parle de l'effort pour faire un mouvement. Souvent, bon, j'aime bien donner cet exemple parce que ça a été mon cas. Je portais pour cuisiner, par exemple, une casserole vide comme si elle avait 2 litres d'eau. Et un jour, j'ai pris conscience parce que j'étais persuadée d'avoir mis 2 litres d'eau dans la casserole. J'ai mis trop de force. Et je me suis laissée emporter avec ma casserole qui n'avait rien, qui était vide. Et je me suis rendu compte de la force musculaire que je mettais inutilement à porter un objet qui était bien, bien léger. Et en fait, si on est très attentif, on se rend compte qu'on passe notre temps à faire des efforts. Des efforts pour tenir un verre, des efforts pour se tenir aussi assis ou debout. On fait des efforts pour ajuster notre posture, pour ajuster notre verticalité. Et ça va être d'autant plus impressionnant si on a eu une éducation, tiens-toi droit, garde la colonne droite, voire raide, et qu'on s'empêche d'être en mouvement. Puis après, on a des conséquences à ça, c'est-à-dire que les muscles ne savent plus accompagner le déplacement articulaire, mais ne font que tenir. Et là, les douleurs arrivent. Donc nous, on va apprendre à faire moins d'efforts et à laisser une autre, deuxième notion fondamentale, c'est de cesser de lutter contre la gravité, c'est-à-dire le rapport gravitaire. On est sur la planète Terre, il faut savoir que le poids passe à travers les os et que les muscles sont faits pour le déplacement et que si on laisse vraiment les os laisser passer le sens, la gravité à travers nous vers le sol, et une action qu'on a qui s'appelle le repoussé naturel pour se tenir debout,
Oui.
si on le fait avec le moindre effort, on obtient une très très grande disponibilité et beaucoup moins de fatigue. Énormément, beaucoup beaucoup moins de fatigue. Pas seulement pour tenir debout, mais pour faire plein d'actions.
Mais il faut savoir le faire, ça.
On apprend, c'est-à-dire on apprend à travers le ressenti parce qu'on apprend à doser un mouvement. À le vivre dans l'amplitude exacte où c'est confortable, à ne pas dépasser cette zone où la tension commencera à s'inviter. On se retire de la plus loin de tension. Après, du coup, ça permet de dire que souvent on est en tension avec un S quand on est trop attentif, c'est-à-dire qu'on met trop d'attention. Et pendant une séance collective, mais même aussi sur la séance individuelle dont on pourra peut-être parler
Bien
tout à
sûr.
l'heure, quand on veut réussir, exactement comme un enfant qui veut réussir à lire ou à écrire, quand c'est trop, quand c'est pas le moment pour lui, que c'est trop d'efforts, qu'on insiste trop dans son... que c'est maintenant qu'il faut qu'il obtienne l'apprentissage, il tire la langue, il fait des efforts, sa respiration s'arrête, il est un peu en apnée, des fois ses yeux tournent. Ça veut dire que c'est beaucoup trop pour le système nerveux. C'est plus le moment d'apprendre, il faut faire une pause. Donc nous, on apprend aussi, en tant qu'adulte, à faire des pauses et à réguler notre attention. Et on va passer d'une attention plutôt qu'on appelle fovéale, c'est-à-dire qu'on fait focus sur quelque chose. Mmh. Et on apprend à écouter cet endroit, cette partie de nous-mêmes. Et en même temps, on se défocalise et on élargit l'attention à tout de nous-mêmes. On guide le mouvement à travers une intention, puisque c'est le praticien qui guide par la voix. Si je vous dis avancer l'épaule, mais si vous, vous ne commandez pas par votre cerveau, par votre intention, j'emmène mon épaule en avant, si vous ne dites pas je, ce n'est pas moi qui vais le faire.
Oui, c'est sûr.
Puisque je ne l'ai que dit. Après, je le dis d'une certaine, avec une certaine voix, avec un certain rythme, qui fait que vous êtes en condition pour l'amener de travailler en qualité, d'être dans un mouvement de qualité. Moi-même, je change mon tonus pour enseigner. Et tout doucement, votre épaule avance et moi, je vous guide à la qualité d'amener cette épaule en avant. Comment l'omoplate fait? Bon, moi, j'aime bien nommer les noms des os. Il y a des praticiens qui parlent moins du nom des os, mais on clarifie la direction du mouvement. On clarifie l'écho du mouvement avec les autres parties de nous-mêmes. Et cette attention qui voyage, en fait, et qui peut être même jusqu'à flottante. Des fois, on a même l'impression qu'on peut s'assoupir, puis après, on revient en attention. Ça va permettre de moins faire les choses dans des tensions, mais plus avec de l'ouverture. Et là, l'expérience sensorielle commence vraiment à naître. Souvent, les gens qui viennent au début, ils me disent, mais vous dites, qu'est-ce que vous sentez à cet endroit-là? Mais moi, je sens rien. En fait, c'est pas vrai qu'on sent pas. Personne ne sent rien. Si on sent vraiment rien, c'est que je pense que c'est une maladie qui s'appelle agnosie sensorielle ou quelque chose. C'est qu'il y a un problème sur la tactilité, la peau, ou un problème du schéma corporel à plus sentir. Mais en général, tout le monde sent. Seulement, on n'a pas appris à écouter, à sentir. Donc, on ne sait pas définir notre sensation. On ne sait pas la repérer. Et donc, en Feldenkrais, on apprend ça aussi, mais on ne l'apprend pas de manière rationnelle. C'est-à-dire qu'on ne s'exerce pas à sentir, mais à travers le mouvement, la sensation se développe. Et du coup, ça suit... C'est pour ça que ça s'adresse au cerveau. On a des chaînes le long de la colonne vertébrale qui sont une chaîne afférente et une chaîne efférente. Il y a une chaîne motrice qui va du mouvement vers le cerveau. Sensorielle qui va du mouvement par les capteurs sensoriels qui vous renseigne de où vous êtes dans l'espace, comment vous avez tourné les yeux, qu'est-ce que vous regardez, mais ça va très vite, hein, bien sûr, ça. Et il y a une chaîne de commande du cerveau vers le mouvement. Et comme on travaille beaucoup, beaucoup de mouvements autour de la colonne vertébrale, on rend vraiment disponible à nouveau ces deux chaînes qu'on a beaucoup expérimentées dans l'enfance. Donc ça, c'est l'attention. Après, il y a chercher à ne pas réussir.
Pardon ?
Chercher à ne pas réussir.
Ah,
cesser la réussite. Alors, je dirais que c'est pas... Là aussi, c'est pas, ça n'a rien de philosophique. Ce n'est pas une doctrine pour la vie. On ne vous dit pas dans la vie, ne cherchez pas à réussir ce que vous faites. Pas du tout. Mais pendant le mouvement, si vous voulez réussir un mouvement, c'est-à-dire que vous projetez une idée de mouvement, une image du mouvement... Mais la projection que vous en faites, ce n'est pas exactement le mouvement. Il faut rester en mouvement. Et si on ne cherche pas à réussir, à avancer l'épaule, ou à baisser la tête, ou à tourner la colonne vertébrale, ou à orienter le bassin d'une certaine façon, ou à enrouler le dos, tout d'un coup, toutes les parties qui sont concernées vont se mettre ensemble par le processus. Donc en fait, c'est vraiment une méthode qui travaille sur les processus. Et... Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a la lenteur.
La lenteur, oui, vous avez parlé de la lenteur.
Voilà, la lenteur, parce que sans lenteur, on ne sent pas. Et il y a une étude qui a été faite il y a quelques années à l'université de Saint-Charles, une étude scientifique hein, avec des gens passifs, des étudiants. Et pour faire très court, les pieds des étudiants étaient posés sur un socle qui bougeait. Le socle bougeait, ce n'est pas eux qui décidaient de bouger. Et il y avait tout un protocole scientifique pour mesurer ce que faisaient les muscles et pour mesurer comment le cerveau enregistrait l'activité. Plus c'était lent, plus le cerveau enregistrait une activité, plus c'était rapide, moins il y avait d'activité enregistrée. Donc même les neurosciences ont validé ce que Feldenkrais a beaucoup intuité, mais qu'il n'a pas intuité tout seul en fait. Il y avait déjà des recherches, même au 19e siècle, avec ce qu'on appelait avant les neurosciences, la psychophysique, qui étaient les prémices de tout ce qu'on découvre et tout ce qu'on définit très clairement aujourd'hui.
Aujourd'hui.
Par exemple, le cerveau apprend par la différence et il apprend mieux par une petite différence ressentie que par une grosse différence. Par exemple, vous posez une boîte d'allumettes sur votre main. Moi, je suis en train de poser mes lunettes en même temps que je parle
Et moi,
au
je vous
micro.
observe.
Et si je pose juste le poids d'un petit stylo, je sens une petite différence. Et une différence tellement claire que ça me renseigne sur la différence de poids que je mets sur ma main. Par contre, si je mets ma main, la différence est trop grosse, à un moment donné, ça efface la distinction de ma peau, de mes lunettes et de mon stylo.
Je comprends.
Alors que là, j'ai les trois espaces, on pourrait dire. Et ça, c'est la loi de Weber-Fechner que j'exprime complètement à ma manière et j'assume de le faire d'une manière vécue et non pas complètement scientifique. Et c'est un psychophysicien du 19e siècle. Et Feldenkrais a beaucoup utilisé cette loi pour travailler, même en séance individuelle. Voilà. Après, il y a une autre notion très importante de la méthode, c'est la réversibilité. C'est-à-dire qu'un mouvement, on est capable de le rembobiner. C'est-à-dire qu'on est. J'ai utilisé cette image hier en cours. Est-ce qu'on est capable de faire le mouvement dans un aller vers et de revenir par le même chemin? Et de savoir s'arrêter à tout moment du mouvement et de capable d'être revenir un petit peu en arrière. Si on a eu vous savez, les appareils à cassette, on comprend bien l'idée du rembobinage. C'est-à-dire, on vient en arrière, mais en même temps, on est capable de c'est une capacité d'inhibition et pas tout le temps de faire le chemin dans une direction et de repartir d'où on est arrivé, mais de savoir revenir. Et pour le squelette, c'est assez important, c'est d'aller vers et de revenir à une certaine neutralité. Bon,
Bon,
c'est un peu complexe,
c'est un peu
mais.
complexe, parce que j'étais en train de penser cette notion de
Cibilité.
réversibilité. Si vous me demandez d'étendre mon bras, je suis capable de revenir en arrière.
Oui.
Mais je pense pas avoir compris la nuance dont vous parliez. Parce que ça, tout le monde est capable de le faire, revenir en arrière.
Parce que là, vous montrez juste autour d'allonger le bras et de le plier.
Oui.
Donc ça, il y a la fonction d'extension et de flexion, elles sont antagonistes, elles existent ensemble.
Oui.
Mais dans le mouvement, par exemple, de réversibilité, c'est par exemple d'engager la tête qui tourne, l'épaule qui tourne, et à tout moment de sentir que la colonne est partie avec ce mouvement, et d'être capable de revenir soit par la tête, puis les
Ah
épaules, puis
oui.
la colonne. Ou alors de revenir d'abord par la colonne, puis les épaules et la tête. Et en fait, cette réversibilité permet d'organiser. Il y a plusieurs façons de l'organiser. Il y a plusieurs manières Il y a plusieurs buts sous-jacents à ça. Mais une des possibilités, c'est de créer de la différenciation. Et dans la première
C'est ça.
partie de l'émission, vous parliez de cette plasticité neuronale.
Oui.
Là, on est au cœur d'une coordination différenciée, c'est-à-dire qu'on est capable d'agir partie par partie, mais en même temps ensemble.
Je comprends.
C'est un développement optimal du mouvement. Et c'est de ne pas être agir comme un bloc.
J'ai tout à fait compris. Alors, il nous reste plus beaucoup de temps, 5-6 minutes maximum. Est-ce que vous voulez dire juste un mot sur l'intégration fonctionnelle? Parce qu'on a parlé de la PMA, mais
la PCM,
mais je voudrais que vous parliez de l'intégration fonctionnelle.
Alors, l'intégration fonctionnelle, c'est la séance individuelle et comme on cherche justement à ce que la personne intègre une meilleure fonction d'elle-même, un meilleur fonctionnement. Et on pourrait dire que le Feldenkrais, c'est comme une Gelstadt, c'est-à-dire que nous sommes... en fait, on remet en relation toutes les parties de nous-mêmes, le cerveau, le corps, l'environnement, mais les parties de nous-mêmes aussi, le bassin, la tête, très concrètement dans le corps, ou l'image qu'on a du mouvement avec notre comportement. Et en même temps, on a toujours conscience qu'on est plus que l'ensemble des parties. Et du coup, par la séance individuelle, il y a une relation au toucher, le praticien guide par le toucher, et on accède à un niveau plus grand de sensorialité, puisque le toucher, c'est le premier sens qu'il y a eu dans le ventre, qu'il y a eu aussi quand on était bébé, avant le langage, il y a ce premier sens de la tactilité qui va faire réagir la personne à un niveau beaucoup plus profond.
Donc là, ce n'est plus la voix, mais c'est le toucher.
Voilà, c'est plus la voix, mais c'est le toucher. Mmh. Mais l'important, c'est que le toucher touche. Mmh. Donc, c'est un toucher d'écoute, ce n'est pas un toucher de manipulation.
Bien sûr.
Comme la voix doit toucher. Ou comme quand le praticien observe les gens sur le tapis pour mieux guider, son regard doit être un regard il doit toucher par le regard.
Alors, ce que tu viens de dire m'amène à te poser peut-être la dernière question, il reste quelques minutes. Qu'est-ce qui fait qu'une séance est une séance Feldenkrais? Tu as déjà dit pas mal de choses à ce sujet, mais résumons. Par rapport d'abord à l'enseignant et puis par rapport à l'élève ou au patient, je ne sais pas comment il faut dire.
L'élève, parce qu'il est toujours en train d'apprendre.
D'accord, c'est
alors
vrai.
Qu'est-ce qui fait qu'une séance pour quelqu'un qui pratique, c'est qu'à chaque fois qu'il se relève de la séance, à chaque fin, il y a vraiment un changement de rapport. Pas seulement dans qu'il a fait un exercice physique qui se sent plus souple et plus délié, mais qu'il y a un changement dans son tonus postural, qu'il y a un changement aussi dans sa manière d'être en relation à l'espace. Et il sent qu'il a vécu les choses à plusieurs niveaux. Et je dirais que pour le praticien, qu'est-ce qui fait que cette séance, c'est vraiment une séance? C'est quand il voit qu'un changement dans ce rapport à l'environnement a changé chez ses élèves. Que quelque chose, c'est justement dans cette Gelstadt, que la personne est un tout, que cette personne, même si elle est restée au niveau du mouvement, il y a quelque chose qui s'est mis en route.
Bien. Alors, 30 secondes encore. Dis-nous comment on peut te contacter. Dis-nous un mot de Perpétuum Mobile et comment on peut te contacter si on est intéressé.
Alors, j'ai créé une association pour être disponible à travailler aussi en institution par facilité. Donc, Perpétuum Mobile défend l'enseignement de la méthode Feldenkrais, mais aussi des méthodes, ce serait peut-être une autre émission, d'éducation somatique. Voilà. Après, si on veut me contacter, j'enseigne Place de Rome. Il y a un site internet perpetuummobile.fr.
Voilà.
Il faut taper Perpétuum Mobile Marseille et je pense qu'on me trouve assez facilement. Et puis voilà, je m'appelle
Nathalie Toiti.
Voilà.
Et Place de Rome, quel numéro de la Place
5,
de Rome
5. 5
Place de Rome. Bon, écoutez, et puis de toute façon... chers amis, si vous avez besoin de contacter Nathalie et que vous n'arrivez pas, vous m'appelez et je vous donnerai toutes les informations. En tout cas, Nathalie, merci beaucoup.
Merci à vous.
On a encore beaucoup à se dire, je crois. On se reverra encore. À une prochaine fois.
À une prochaine fois, merci beaucoup.
Bonsoir. Attends. Tu me diras. Ne quittez pas votre écoute, car Jonathan vous attend pour votre émission de foot. Et ça, c'est endiablé.
Réalisée et animée par Roland Bensoussan.
Chers amis, bonsoir. Roland Bensoussan au micro de Judaïsme Pluriel. Pour votre émission du jeudi soir de 19 à 20h, c'est Judaïsme Pluriel.